Alors l'OBVIA, et comme vient de le dire Stéphanie, a reçu 200 000 $ des fonds de recherche du Québec pour former un comité de chercheurs chargé d'évaluer les effets des technologies dans cette lutte contre la COVID-19. Expliquez-nous, s'il vous plaît, un peu plus la mission de ce comité.
Oui, donc ce n'est pas seulement relié aux effets là, des applications. Donc, c'est un comité qui a été mis sur pied, composé de différents chercheurs provenant de différentes disciplines qui sont membres de l'Observatoire. Et on avait obtenu ce financement qui vise à étudier les effets des systèmes d'intelligence artificielle et des outils numériques qui sont déployés pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Donc, j'ai demandé à différents chercheurs de me proposer des projets qui ont été soumis à ce comité. C'est comme un comité des sages, si vous voulez, et on vise à avoir une vision plus prospective. Et on a déjà 8 projets qui sont financés dans le cadre de ce comité-là. Des projets qui vont... Par exemple, si vous voulez, je peux prendre le temps de l'expliquer.
Allez-y, oui, tout à fait.
Donc, évidemment, c'est sûr qu'on a un projet qui porte sur la recension de toutes les applications de tracking qui sont développées à travers le monde, et on vise à voir quels sont les aspects intrusifs, non intrusifs, comment ils sont faits, quelles sont les valeurs qui sont respectées, etc. Donc, c'est vraiment une recension qui va être faite sous forme d'un livre blanc qu'on appelle dans le domaine de la recherche, qui va être déposé et qui va circuler un peu partout. On a aussi la mise en place d'un baromètre d'acceptabilité sociale, donc l'acceptabilité sociale des mesures politiques qui implique les outils d'intelligence artificielle pour mieux gérer la crise de la COVID-19 au Québec. Donc, toute une équipe de chercheurs qui est dirigée par le professeur Yannick Dufresne. Donc, pour nous, on se disait dans ce débat, par exemple, des différents outils, quelle est la vie de la population, quel est son degré d'acceptation, de compréhension, si on veut, de ces outils, nous apparaissait important. Donc, on a privilégié le financement de ce projet. On a aussi...
Excusez-moi de vous déranger, mais parce qu'effectivement, on voit que c'est assez complet et que c'est assez diversifié dans l'approche, mais on voit que la population, justement, elle se pose beaucoup, beaucoup de questions sur ces solutions qu'on voit émerger en ce moment. C'est pas les propositions technologiques qui manquent pour répondre à la crise, notamment celles basées sur le traçage des personnes porteuses de la maladie, comme vous le signaliez sur ce projet dont vous faisiez état. Tout ce déploiement de ces applications actuellement sur le marché... Même si effectivement on attend les conclusions des différentes études qui vont être faites, mais d'emblée, est-ce que ça vous paraît être une menace pour la liberté, le droit et les libertés des individus?
Quand on emploie menace, c'est parce qu'on a assez d'informations pour savoir quelle est la manière dont est, excusez-moi l'anglicisme, mais désigné un outil, l'algorithme modéliser. Qui est sous-jacent, c'est ça, modéliser, parfait, je cherchais le mot. Donc, il faut avoir ces informations-là. Alors, quand on dispose de toutes les informations nécessaires, on peut arriver à un jugement et dire, effectivement, la modélisation des algorithmes qui ont conçu les outils de tracking, de traçage des populations sont en effet une menace. Mais il y a d'autres outils qui peuvent offrir des garanties et qui peuvent minimiser l'impact, par exemple, sur les libertés, les principes fondamentaux, là, qui fait en sorte qu'on se dit, bien, on a les garanties suffisantes qui nous permettent de dire que ça va être un outil qui va nous aider, qui va être dans un esprit d'innovation responsable. Alors, donc, nous, la recension vise vraiment à offrir, si on veut, un avis sous forme
éclairé,
d'un livre blanc. Éclairé, exactement, parce que c'est le but. Jusqu'à présent, j'aimerais bien vous dire, voilà, l'outil qui est développé en France est une menace, tel autre outil. Je trouve que ça serait présomptueux de ma part d'arriver à vous dire ça, mais...
Excusez-moi, Lise Langlois, mais juste qu'on comprenne bien ce que vous dites, en fait, ce que vous faites, le travail que vous faites, c'est de faire véritablement la balance entre les gains potentiels, justement, de ces solutions, les risques éventuels qu'ils peuvent poser, et de dire, justement, n'ayons pas une vision manichéenne en disant, justement, toute nouvelle solution technologique est une menace en soi. C'est ça que je comprends.
Non. Exactement, parce que si on regarde la mission de l'Observatoire, parce que quand le scientifique en chef a lancé ce concours-là de création d'observatoire au Québec, eh bien, sa mission, c'est vraiment de se fonder sur une interrogation critique des innovations technologiques permettant de soulever les enjeux cruciaux et d'identifier des solutions plausibles. C'est ça. Alors, c'est souvent le bout qu'on perd dans ce débat-là. Ouais. C'est ça. Alors, si, par exemple, on en fait une analyse et de ces analyses-là, on fait des recommandations en disant, oui, la modélisation a été très intéressante. Par contre, elle discrimine un certain groupe de population où on sent qu'il y a un besoin dans ce secteur-là. Eh bien, nous, on veut participer à ce débat-là. On ne veut pas juste avoir une position critique en disant c'est une menace, etc. Mais c'est une menace ou ça offre les garanties suffisantes, mais on veut participer aux solutions plausibles à ces problèmes-là, à ces opportunités qui sont posées par les développements de l'intelligence artificielle et du numérique au Québec et aussi ailleurs dans le monde. Donc, c'est vraiment dans cette optique.
Dans cette optique-là. La question posée, en fait, Lise Langlois, c'est celle du consentement éclairé par rapport à l'utilisation des données personnelles. Et à ce niveau-là, quelle est l'approche du Québec? Comment situe-t-on par rapport à l'approche qui est adoptée dans le reste du Canada, en Europe ou même en Asie?
Au niveau de l'approche du consentement éclairé, il faut vraiment retourner aux avis de la commission d'accès à l'information. Hein. Donc, va toujours poser, j'ai trouvé, la commission d'accès à l'information a soumis un avis quand même assez intéressant dans lequel fait ressortir les grandes questions à se poser lorsque l'on veut justement soit respecter les libertés, puis en même temps mettre en place un consentement qu'on peut appeler dans le milieu de la recherche, on a des consentements dynamiques, des consentements où l'individu dit oui, puis après ça peut retirer son consentement. Alors, les questions là, que l'on voit apparaître, c'est qu'on va toujours chercher à savoir est-ce que cette application-là, quand vous allez donner votre consentement, vise à aider les autorités de santé publique à effectuer, par exemple, des enquêtes. Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va donner les garanties suffisantes ou l'information suffisante pour justement éclairer la personne qui va dire oui à la fin de la page et aussi si elle va avoir assez d'éléments qui va lui dire OK, je suis capable de donner mon consentement de manière éclairée parce que les explications qui me sont données sont claires, sont accessibles, sont compréhensibles parce que parfois on prend pour acquis que on est tous au même niveau de la littératie numérique, mais là si on vise à toute la population comme dans ce cas-ci, ben il faut que le langage soit accessible pour que lorsque que je puisse justement donner mon avis.
Mais Lise Langlois, est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui? On sait qu'on est dans une véritable situation d'urgence et dit crise, qui dit crise dit besoin de réponses assez rapides. On le voit, les solutions qui sont proposées aujourd'hui, les solutions technologiques entre autres, elles visent à pallier cette urgence. Est-ce qu'on a, et vous parliez justement de la nécessité à votre niveau, au niveau du comité, puis je pense au niveau de tous les chercheurs qui auront à se pencher sur ces questions-là, on a besoin quand même de temps pour pouvoir évaluer justement les risques, les dommages potentiels de ces solutions. Est-ce que on peut s'accorder aujourd'hui à cette situation d'urgence dans le cas où vous êtes, vous, à l'Obvia et dans ce comité?
Votre question, c'est à savoir...
Est-ce qu'on a assez de recul, tout simplement, aujourd'hui?
Est-ce qu'on a assez de recul? Oui. C'est vrai ce que vous dites. Vous posez quand même une question importante. On dirait qu'il y a cette vitesse-là, puis à chaque fois, on lit quelque chose de nouveau.
Ce qui est légitime, hein, c'est normal. C'est normal.
Justement, des fois, ça peut être difficile de discriminer la bonne de la mauvaise information. Là, ça, en soi, c'est un défi. Mais puis aussi, les disciplines évoluent avec des rythmes différents. Hein. Par exemple, en sciences humaines et sociales, on va prendre plus de recul. En technologie, on va être dans l'innovation. On va vouloir mettre en place un outil pour soutenir, pour aider les gouvernements, pour aider la population. population, etc. Donc, c'est de coordonner tous ces risques-là, puis de dire, par exemple, l'éthique, si on fait entrer l'éthique dans la réflexion, par exemple, de la conception de ces outils-là, mais l'éthique est là quand même un temps de réflexion qui est nécessaire pour bien comprendre les enjeux, mais n'empêche qu'il ne faut pas minimiser l'effet qu'il y a eu beaucoup de réflexions éthiques qui ont été faites depuis 2016. Donc, au niveau, par exemple, de l'éthique, quand vous parlez de recul, je vais prendre cet exemple-là, on dispose déjà de principes assez solides qui obtiennent un certain consensus parmi la communauté internationale qui peuvent servir de phare présentement à ceux qui veulent intégrer l'éthique dans la modélisation de leur application. Alors,
donc là, finalement,
l'avenir nous dira, c'est, par exemple, une fois qu'on aura expérimenté le tout, jusqu'où, par exemple, ces principes-là qui ont été testés tiennent la route.
C'est la mise en pratique.
Comment il faut les modifier. Ben voilà. Mais je pense que... pour parler du volet de l'éthique, je crois qu'on a assez d'éléments pour les mettre à l'épreuve lorsqu'ils sont pris en considération. Et par la suite, on verra
dans
la
robustesse.
Si ça
se vérifie.